Le grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency sur Radio Immo.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci, plutôt bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 18h34, on est désolé, on a toujours quelques minutes de retard. On est en direct sur Radio Immo, merci d'être avec nous et on va vous souhaiter une très très belle année. Et on va juste souhaiter que cette année 2025 soit plus apaisée que celle que l'on vient de passer. On peut toujours espérer. Voilà, c'est le numéro de janvier 2025, premier numéro de l'année avec Radio Immo. Bien entendu, les grands jurys de la presse immobilière, mes confrères de la presse immobilière qui sont avec moi sur le plateau. Bonsoir Virginie Grelot.
Bonsoir.
Comment ça va Virginie ?
Ça va bien.
Tout bonne année.
Meilleurs vœux.
Alors comment ça démarre ?
Sur les chapeaux de roue.
Vous êtes superbe ce soir.
Ah bah c'est gentil.
Merci d'être avec nous, journaliste célèbre au Chez Challenge. Merci avec nous, spécialiste de l'immobilier. Bonsoir Bruno Meunier-Vinard.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous.
Comment ça va ?
Ça va bien, merci.
Voilà, bonne année Bruno.
Oui, bonne année, meilleurs vœux.
Voilà, la plume acérée de l'immobilier du journal Le Point. Merci d'être avec nous. Bien sûr, on ne pouvait pas, et depuis le début, faire une émission sans elle. Elle est auteure, essayiste, elle a sévi au monde pendant très longtemps, spécialiste de l'immobilier, halte à la spéculation sur le logement. Je cite, t'as vu, je cite toujours le livre.
Oui, je te remercie.
À chaque fois, c'est notre amie Isabelle Rey-Lefebvre. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir tout le monde.
Comment ça va Isabelle ?
Très bien, très voilà. Bien, et bonne année à tout le monde.
Voilà, bonne année Isabelle. Et bien sûr, celui qui chaque mois nous donne les datas, les approches, les chiffres, sans lesquels d'ailleurs nous ne pourrions pas avoir dans la brume immobilière un peu de lumière, responsable data chez Bien Ici. Bonsoir Régis.
Bonsoir Sylvain.
Régis Sabi, merci d'être avec
meilleur
nous.
Meilleur vœu aussi.
Ça a bien démarré.
Alors très bien, sur les chapeaux de roue, sur les roues des chapeaux, ça démarre très très fort cette année.
Ouais, le chapeau, tu sais, le chapeau.
Le
chapeau jaune avec le pompon.
Exactement.
Voilà, et le chapeau d'Isabelle, qui était très éclairé.
Ah oui,
le plus beau.
Voilà, pour Noël. C'est le chantier du siècle, hein, vous le savez, on va faire un point sur l'actualité immobilière, mais surtout la thématique de notre rentrée, c'est la rénovation énergétique. On va en parler, bien évidemment, avec notre grand invité. Il est avec nous sur le plateau, il est le directeur général de Sofinco, c'est Franck Oniga. Bonsoir Franck Oniga.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous, de vous prêter au jeu des questions. Merci de votre présence. On va parler de ce chantier, on va parler surtout de tout ce qui a changé, de tout comment on va pouvoir aborder massivement ces difficultés autour de la rénovation et de l'éco-transition de l'habitat. C'est bien le mot du jour. Au menu, comme d'habitude, de ce grand jury, vous avez la météo de l'immo qui va être présentée par notre ami Régis. Ensuite, les coups de gueule et les coups de cœur de nos journalistes, toujours dans la revue des journalistes. Et ensuite, on passera avec vous, Franck, le grand débat pour essayer de trouver un petit peu de lumière dans ces méandres, dans cette opacité d'aide, de financement et d'essayer de voir comment vous abordez sereinement le marché. Voilà pour le menu de ce soir. C'est parti pour la météo de l'immo.
La météo de l'immo part bien ici.
Eh bien, bonsoir mon cher Régis. Alors moi je suis ravi de vous retrouver parce qu'on va parler un petit peu quand même marché immobilier. On a l'impression que les couleurs reprennent un petit peu en ce début d'année. Petit récapitulatif rapide 2024 et ensuite on va essayer peut-être de se risquer sur quelques tendances 2025 et on parlera ensuite bien évidemment de rénovation énergétique et des ambitions de ce nouveau gouvernement en souhaitant que ce gouvernement reste encore en place. On va commencer par l'année 2024 si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif rapide ?
Le petit tour rapide, on va le faire avec trois chiffres, en gros. Sur le marché de la transaction, tout d'abord, c'est une baisse de l'offre diffusée d'environ 5%. Ce qui veut dire qu'à la différence de l'année 2023, on arrive sur une phase où on a plus d'annonces à sortir du marché que d'annonces à rentrer. Et cette baisse, elle se voit surtout sur les appartements et dans les grandes villes. L'autre chiffre, c'est plutôt une baisse de la demande. Mais 2023 par rapport à 2024, avec une année 2024 distinguée sur deux parties. Un premier semestre en deçà et un deuxième semestre qui allait beaucoup mieux. Le troisième chiffre, ça va être la baisse des prix de l'ordre de 1,3%. C'est peu, 1,3%, mais c'est constant par rapport à 2023. Et cette baisse des prix, c'est aussi ce qui redonne un peu d'espoir sur l'achat immobilier. En gros, on va avoir une année en demi-teinte avec un premier semestre dans la continuité de 2023 et une reprise de la demande à partir de l'été, surtout au dernier trimestre et notamment avec des taux de crédit qui étaient en baisse et qui ont favorisé la reprise de la demande et la capacité de budget. Le point noir de cette année 2024, juste pour finir, ça va être la location. La location avec de moins en moins d'offres disponibles et toujours plus de demandes. Donc un marché en crise à ce niveau-là.
Est-ce qu'on a quand même quelques bonnes nouvelles pour 2025?
Alors 2025, j'ai fait l'exercice sur les 15 premiers jours qu'on vient de passer. Et si on regarde sur les deux marchés de la vente et de la location, on va voir des tendances qui vont dans la continuité de 2024. C'est-à-dire que sur le marché de la transaction, on est déjà à plus 10% de demandes sur ces 15 premiers jours de 2025 par rapport aux 15 premiers jours de 2024 pour une offre assez similaire. Tandis que pour la location, là c'est l'effet inverse, c'est moins 10% d'offres. Et une demande qui continue d'augmenter de 4-5% cette année.
Moins 10% d'offres, ça veut dire que, en fait, la situation qui était déjà extrêmement grave est en train réellement d'empirer.
Alors, on se base uniquement sur les 15 premiers jours de l'année, oui, mais on a quand même moins d'offres.
Les premiers indicateurs ne sont vraiment pas favorables. Hein.
Alors, pas favorables, et en tout cas, ça ne s'améliore pas sur la location en début d'année.
C'est très clair.
Et en termes de prévision, vous allez me le demander, donc tout va dépendre des taux.
Bah oui.
Et surtout, en fait, la grande question, ça va être l'équilibre entre le prix et le budget. Ce qui s'est amélioré avec des taux en baisse, le budget a été retrouvé côté acquéreur, et du coup, les ventes redeviennent possibles en fin d'année et en ce début d'année 2025.
En fait, on en parlera, mais c'est mécanique. Baisse des taux, mécaniquement, on a vu que resolvabilisation des foyers, la primo-accession qui reprend des couleurs, ça c'est vrai.
C'est mécanique, mais ce qui dépend beaucoup, c'est le budget. C'est-à-dire qu'à partir
la baisse
de
des
quel
prix,
budget,
hein,
jusque quel budget vous pouvez emprunter et financer, et si ça correspond au prix, la vente peut se faire. Si le prix est trop élevé par rapport à vos capacités, forcément, vous ne pourrez pas acheter.
Alors, j'ai pas été très sympa avec le discours du Premier ministre. Hein, je vous avais vu sur BFM Business avec... notre ami Marin, j'étais un peu sidéré par le discours de politique générale, mais on va en parler. Il a prononcé ce discours, il a parlé du logement un peu, mais il en a parlé quand même, Régis.
Alors oui, il en a parlé. Il y a des idées qui sont ressorties, notamment des relances sur la construction, sur l'investissement locatif, un élargissement des PTZ. En fait, il y a beaucoup de bonnes idées pour la relance du marché au sens général. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en place, elle n'est pas pour tout de suite. On ne sait pas encore ce que nous réserve 2025, en tout cas, tant que le budget n'est pas concrètement bien voté. Ce qui est concret aujourd'hui, en tout cas, c'est la question vraiment des enjeux liés à la rénovation énergétique, et ça va être un peu le débat de ce soir, avec une application de la loi Climat et Résilience au travers d'un calendrier de DPE qui a déjà démarré. Si on regarde un peu les chiffres pour comprendre la situation, déjà avant son application, on trouvait autant de biens passoires thermiques, donc les G et les F, sur le marché locatif que sur le marché transactionnel. C'est-à-dire que sur l'ensemble des annonces diffusées de biens F et G, il y en avait autant à vendre qu'à louer. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, avec les G qui sont interdits à la location depuis le 1er janvier et au renouvellement des baux également, si on regarde l'ensemble des passoires thermiques F et G, il n'y a plus de G à louer, on est à un bien à louer pour quatre biens à vendre. C'est-à-dire que cette réglementation sur les DPE a joué un déséquilibre dans le rapport vente-location qui confirme un petit peu la tendance que les passoires thermiques sont davantage mis en vente que rénovés aujourd'hui.
On s'y attendait.
Alors, on s'y attendait
580 000 logements en étiquette G, dont je crois à peu près 200 000 à Paris, me semble-t-il. On avait des éléments. Donc, alors, c'était évident.
Alors, c'était assez évident. C'est une grosse partie du marché au niveau passoire thermique. Aujourd'hui, si on regarde les F qui sont toujours disponibles sur le marché locatif, c'est 8% des annonces de location.
8%.
Mais ces F, c'est autant de biens à louer qui seront interdits à la location dans la continuité de ce calendrier DPE à compter du 1er janvier 2028.
En sachant que le nombre de biens à la location a été divisé de moitié dans les deux dernières années.
Alors, il a été divisé par 2,5 depuis 2021, exactement. Oui.
Donc, si on veut mettre les Français à la rue, il n'y a pas mieux, quoi.
Il n'y a pas mieux. Et surtout sur les... On parle toujours des étudiants et des jeunes actifs, mais c'est surtout sur les petites surfaces que les passoires thermiques sont les plus représentées.
Là, vous avez des chiffres, hein, là-dessus.
Alors, oui. En gros, on parlait de 8% des annonces de location qui sont en F.
Incroyable.
Et c'est 13% des studios, c'est 9% des deux pièces. Donc, grosso modo, ça va être encore les petites surfaces qui seront plus impactées, là où on a le plus de demandes aujourd'hui.
Merci mon cher Régis, parce que je pense qu'il y a de quoi débattre avec nos amis du Grand Jury et avec notre invité, d'ailleurs, et pour cause, puisque c'est le principe de la thématique de notre émission. Voilà, merci Régis, c'est parti pour la revue des journalistes et du Grand Jury.
Le Grand Jury de la presse immobilière, la revue du Grand Jury.
18h43, vous êtes sur Immo. Merci d'être avec nous pour ce numéro de janvier du Grand Jury de la presse immobilière avec Isabelle Ray-Lefebvre, Bruno Monnier-Vinard, Anthony Donnet qui nous a, voilà, qui est venu subrepticement. Bonne année, Anthony.
Merci, vous aussi.
D'accord.
De ces
quelques c'est vous qui payez le champagne tout à l'heure, voilà, tout simplement. Merci d'être avec nous. Journaliste chez Immo Week, merci d'être avec nous. Et bien sûr, Virginie Grolot, toujours avec nous. Je vous rappelle, Virginie, vous étiez là depuis le début.
Oui.
Avec nous, voilà, vous vous rendez compte.
Mais on ne va pas compter.
Merci d'être avec nous. Alors, je vous rappelle, mon cher Franck Honigat, vous êtes notre invité ce soir. On a l'habitude de démarrer avec cette revue. En fait, l'enjeu est simple, c'est qu'on va poser les questions aux journalistes qui font l'opinion, qui font l'influence, leur coup de cœur, ou leur coup de blues, ou leur coup de gueule. Je propose qu'on commence par Isabelle Ray-Lefebvre. On va parler de son coup de gueule sur l'inflation du nombre de résidences secondaires dans les villes, comme à Paris par exemple, et vous avez aussi également un deuxième coup de gueule ce soir. On vous écoute.
Oui, ce qu'on constate, c'est une tendance assez longue de multiplication des résidences secondaires, enfin depuis 2010-2011, et ce qui est surprenant, c'est au cœur des villes. Paris le dit souvent, entre 2010 et 2021, il y a eu 45 000 résidences secondaires de plus, soit 50% de plus. Bordeaux, une fois et demi plus, Marseille, Lyon, Annecy, Strasbourg, Colmar, toutes ces villes connaissent vraiment une inflation du nombre de résidences secondaires. Paris dit qu'il y a à peu près 7000 par an de résidences principales qui deviennent ou des logements vacants ou des résidences secondaires. Et ça participe au retrait du marché locatif privé dont on parlait. Alors, est-ce qu'ils sont loués sur les plateformes? Probablement en partie. Ils sont peu utilisés. Et donc, ces résidences secondaires au cœur des villes pèse sur le marché locatif privé.
Pourquoi c'est un coup de gueule? On n'a pas le droit d'avoir une résidence secondaire en ville?
Non, mais c'est, pour l'instant, on a encore le droit. Mais
oui.
Quoique, il y ait maintenant, dans le PLU de Paris, des zones où les logements neufs ne pourront être que des résidences principales. Je ne sais pas comment ils vont contrôler ça. Mais,
oui, c'est...
Non, mais c'est un marché, ce sont des biens, là où il est difficile de construire, qui devraient être utilisés plus intensément par des locataires permanents. Et ça soustrait un petit peu...
Que je comprenne bien, vous êtes très favorable à finalement dans une crise cruelle de logement tout court, avec des personnes qui sont SDF, avec des personnes en demande de logement, à dire peut-être qu'on ralentisse cette idée de la résidence secondaire pour qu'on privilégie finalement le logement occupé à 100%. Et si possible, dans un cadre assez long.
Tout à fait.
C'est ça l'idée. Hein, voilà.
Oui.
Vous n'êtes pas pour.
Quand une ressource devient rare, que ce soit de l'eau, de l'énergie, du terrain...
Je comprends.
Il faut se mettre autour de la table et voir comment privilégier les usages prioritaires. D'où d'ailleurs la taxe sur les résidences secondaires qui a été mise en place.
Oui, mais en France, on a aussi inventé en 1792 le droit de propriété, non?
Oui, mais vous savez, tout le code de la construction, tout le code de l'urbanisme, c'est une atteinte au droit de propriété.
Hein. Oui, d'accord.
C'est une longue histoire.
On a un deuxième coup de gueule, ce soir,
oui.
Très en forme.
Alors ce soir, la Cour des comptes a publié aujourd'hui, jeudi 25 janvier, un rapport sur le GMBI. C'est la gestion, c'est une plateforme du gouvernement qui s'appelle Gérer mes biens immobiliers. Vous savez, au printemps 2023, on a demandé aux propriétaires de déclarer l'occupation de leur logement.
Tout à fait.
Et ça s'est fait d'une manière extrêmement chaotique. 1 million de personnes ont reçu des faux avis de de taxe sur les résidences secondaires ou taxe sur les logements vacants, puisque c'était l'objet de GMBI. La mise en place a été douloureuse, chaotique. Il était prévu un budget initial de 12,7 millions, on en est à 56,7, donc presque 5 fois. On a fait appel à des prestataires extérieurs, toujours les mêmes, pour 20 millions d'euros, ce qui n'était pas prévu au programme. Et surtout, l'administration n'a pas pu recouvrer les taxes qu'elle devait recouvrer, c'est-à-dire taxes sur les résidences secondaires, taxes sur les logements vacants. Elle a loupé 34% de la taxe, 1,3 milliard qui manque à l'appel dans les textes.
Oui, ça, c'est...
Et alors, suppression...
Je précise que si on ne déclarait pas, on était taxé de 150 euros par bien non taxé.
Oui, alors il y a plein de gens qui ont reçu des amendes.
Toujours pareil, effet d'aubaine avec des numéros, vous n'avez pas déclaré votre bien. Beaucoup de Français ont cliqué, ont donné leur relevé d'identité bancaire ou leur empreinte de carte bleue, ont été prélevés massivement. Une catastrophe. C'est dingue ça, dès qu'il y a un truc, il y a des voyous, des éco-délinquants qui se jettent dessus, c'est quand même assez phénoménal.
Oui, qui est facilité par le numérique, où on n'a même pas besoin de faire les choses matériellement.
Et pas contrôlé, parce qu'en plus ça ne sera pas contrôlé, parce que l'État n'a pas les moyens de contrôler. Mmh. Merci pour ce coup de gueule. Isabelle, pas de coup de cœur aujourd'hui, hein ?
Non.
On va attendre le mois prochain. Bruno Meunier-Vinard. Alors, ce qui est bien avec Bruno, c'est qu'on a chaque mois un éclairage sur un ouvrage d'architecture. Là, vous avez un coup de cœur pour l'architecture de la gare de Villejuif.
Voilà, alors, c'est un sujet d'actualité.
Je crois qu'on a de l'image hein, qui
un
va être...
Un sujet d'actualité brûlante, parce qu'elle vient d'être inaugurée le week-end dernier. Alors, je vous emmène donc dans le Val-de-Marne, à Villejuif. C'est une gare du Grand Paris... qui vient donc d'inaugurer sa desserte de la ligne 14.
Magnifique. Superbe.
La desserte de la ligne 14. Et à l'été 2026, donc un an et demi après, elle inaugurera la ligne 15. Donc elle a deux lignes. Hein. C'est un hub vraiment de transport.
Ah, c'est superbe ce qu'ils ont fait là.
Métropolitain.
Ça a été livré, Bruno ?
Non, mais c'est en service.
C'est déjà en service. Ah oui, je ne la connaissais pas du tout.
Depuis ce week-end. Alors, ça a été. C'est 12 ans. Ça a été lancé il y a 12 ans. 12 ans d'études, 9 ans de travaux qui ont été faits par Vinci.
Super beau.
Par Vinci et par Bouygues. Particularité de cette gare, c'est qu'elle n'est pas coiffée d'un bâtiment, comme beaucoup d'autres dans les gares du Grand Paris. Elle est.
C'est les ombrières qu'ils ont fait.
Elle est coiffée d'une rosace, qui est une grande membrane en ETFE. C'est une alternative au verre, hein, qui est plus écologique. Et, pourquoi elle est aussi spectaculaire? C'est que, en fait, c'est l'architecte qui s'appelle Dominique Perrault, qui est quand même très connu. Il a creusé un vortex. C'est l'architecte de la bibliothèque François Mitterrand, notamment. Et il a creusé un vortex de 70 mètres de profondeur. Donc, tout en bas, il y aura la ligne 15. Et là, on voit un écorché. Il y aura la ligne 15. Au-dessus, la ligne 14. Et on voit cet écheveau d'escalators, là, qui monte jusqu'à la surface. Il y a des commerces dans les étages supérieurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'avantage de cette gare, outre la magnificence architecturale, c'est qu'elle va servir à 100 000 voyageurs quotidiens dès l'été 2026.
C'est ce qui est estimé.
Voilà, 100 000 voyageurs quotidiens, et que, pour la petite histoire, elle se situe à 50 mètres du cancéropole Gustave Roussy. Donc ça va quand même servir aussi aux personnes qui prenaient le bus pour aller à cet hôpital.
Est-ce que vous avez un coup de gueule
non,
aujourd'hui
voilà,
ce soir
moi
Vous restez positif.
Je suis très sobre en ce début d'année.
Voilà. Donc le mois prochain, on aura droit aussi à un très beau geste d'architecture, je suis sûr.
Oui.
Merci Bruno Meunier-Vinard. Virginie. Oui. Virginie, coup de cœur, coup de gueule aujourd'hui?
Plutôt déception. Parce que justement, on peut revenir sur cette proposition de loi qui devrait être faite, notamment à Paris, du sénateur Yann Brossa sur est-ce qu'on va interdire les résidences secondaires à Paris. Alors ça me laisse assez sans voix, en fait, parce que si on regarde le texte, visiblement, c'est interdire à toute personne déjà propriétaire d'un logement d'acquérir une résidence secondaire dans la même commune. Je ne connais pas énormément de Parisiens qui, je ne sais pas, habiteraient le 15e arrondissement et auraient envie d'une résidence secondaire dans le 11e. Ça me paraît un peu abstrait, mais bon.
Les 45 000 résidences secondaires de Paris, 30% appartiennent à des franciliens.
Oui, mais en fait, on peut aussi imaginer que ces gens qui ont acheté à Paris à une époque, ils ont pris leur retraite, parce que c'est aussi ça.
C'est possible, oui.
Ces logements, ils vont peut-être servir, c'est ce qui est dit, hein, d'ailleurs, par la mairie de Paris, de dire, ou la Pure, je ne sais plus, ces logements servent à loger un enfant étudiant. Je ne vois pas, du coup,
dans
c'est pas un logement.
C'est pas une résidence secondaire.
Dans ces cas-là, c'est... Donc, en fait, il y a un problème, c'est d'arriver à évaluer ce fameux parc, et quand on prend donc si on prend les logements inoccupés 260 000 et qu'on reprend les logements vacants, donc la partie seulement vacant par rapport aux résidences secondaires sur les plus de 2 ans, on est à moins de 20 000, on est à 18 600 je crois, et puis après quand on regarde les vacants depuis plus de 5 ans, il en reste que 3 000. Donc en fait, voilà, et on peut faire je pense à peu près la même chose sur les résidences secondaires. Je pense que ce sont des textes qui n'apporteront pas grand-chose, si ce n'est d'accroître la tension entre les Parisiens, entre eux, et surtout, en fait, je pense qu'il y a d'autres moyens pour desserrer les taux locatifs, et qu'il est sans doute pas en plus à la main, notamment de la mairie de Paris, mais qui serait bon qu'il y ait des textes nationaux qui permettent sans doute de desserrer certaines crispations qu'on constate sur le marché locatif. Et peut-être qu'il faut se poser d'autres questions et pas simplement se dire on va taxer, on va réquisitionner, qui sont les autres propositions de Yannick Jadot notamment, ou on va interdire. Je trouve que, en fait, je pense que pour moi, ce n'est pas la solution.
Alors, c'est loin d'être pas être la solution. Enfin, faut juste rappeler de qui ça vient.
Pas du droit de propriété.
Non, mais attendez, de qui ça vient? Ça vient de Yann Brossa, qui était responsable à la mairie de Paris du logement. Alors, il peut être communiste, il peut être ce qu'il veut, dont on ne peut pas dire, franchement, qu'il ait une vision du logement basée, notamment avec les bailleurs privés, avec une vision sociale qui est complètement étriquée. J'aurais juste rappelé à Yann Brossa que 62% du parc locatif privé avec les locataires seraient éligibles au logement social. Donc il oublie juste que finalement ceux qui ont bâti le logement des villes, ce sont les millions de petits propriétaires bailleurs. Donc l'idée, c'est de, déjà qu'ils en ont pris plein la gueule pendant les 3 dernières années, c'est de rebâtir en fait des contraintes et des obligations, c'est ça l'idée.
Oui, mais c'est surtout de prendre en compte une ville qui a évolué et qui est en tout cas dans un carcan où on ne peut pas construire, qui est dans un carcan qui est juste son territoire, puisque Paris, en gros, c'est dans le périphérique, hein, à part les quelques bandes de terre autour et les quelques logements autour, qui sont en partie d'ailleurs du logement social, les logements de la PHP, etc. Qu'il y a plein de questions qui se posent sur le parc locatif, qu'il y a plein de questions qui se posent sur pourquoi en fait on a cette fuite vers la location touristique et en même temps on ne peut pas se réjouir d'avoir les JO, d'avoir 100 millions de touristes sur notre territoire et à un moment s'étonner qu'il y ait une partie de l'offre locative qui se tourne pour répondre à cette problématique, sachant que, je rappelle, il y a très longtemps, d'abord il y avait très peu de propriétaires à Paris et beaucoup de locataires. Cette situation, elle a évolué au cours du temps, mais en tout cas, quand on avait beaucoup de locataires à Paris, les rendements, ils étaient à peu près de 10, 12, 15%. Donc forcément, vous aviez un parc d'investisseurs conséquent. Aujourd'hui, c'est des rendements négatifs.
Bien
et c'est pas moi qui le dis, c'était dans le rapport de la loi Lemeur qui vise notamment d'ailleurs à encadrer
la location saisonnière.
Voilà.
C'est très clair. Un coup de cœur, peut-être ?
Non, pas trop. Là.
Non, ça va. Anthony Denet, journaliste chez Mobi, que vous avez un coup de cœur, un coup de gueule ce mois-ci.
C'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus un constat. Un constat dû aux différents sinistres que l'on a pu observer un petit peu partout dans le monde ces derniers temps, que ce soit à Valence au mois d'octobre, que ce soit à Mayotte,
des primes d'assurance
en Californie, exactement. Je vais parler des primes d'assurance et notamment du fait que l'on tape beaucoup sur la France sur pas mal de points, mais là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui nous protège comparé à d'autres modèles. Je vais juste comparer donc deux modèles, le modèle américain et le modèle français. Alors, il faut savoir qu'aux USA, ils sont plus que jamais exposés avec ce qui s'est passé notamment à Los Angeles. Cela va coûter aux Américains le double, je dis bien le double, d'aller assurer sa maison dans une région qui est considérée à fort risque de sinistre, avec un taux qui peut même monter jusqu'à plus 82% pour les zones les plus à risque. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de
ça
très...
Ça s'explique, non ?
Comment ?
La sinistralité,
oui,
qui provoque la surprime et l'augmentation, elle s'explique.
Elle s'explique, mais enfin là, on atteint quand même plus, 50, oui, plus 82%. Et je vais vous expliquer justement en quoi le modèle français est complètement différent, puisqu'il y a un dispositif qui s'appelle le CatNat et qui date de 1982 et qui permet justement de mieux couvrir les éventuels sinistres. Puisque concrètement, sur chaque contrat signé par un particulier...
Ça alimente un fonds.
Comment ?
On alimente un fonds spécial.
Il y a une partie de la cotisation payée qui est prélevée par l'État pour renflouer justement un fonds d'indemnisation spéciale. Et c'est ce qui permet justement au taux de cotisation de pouvoir être relativement encadré. Pour autant, on sait qu'il y a des zones à risque en France, notamment les zones qui se trouvent à proximité de la mer avec la montée des océans et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des zones qui sont à risque. Forcément, l'État va prélever plus sur ces différents contrats, environ, on va dire, entre 12 et 20%. Et forcément, je pense que les assureurs le répercuteront également pour les particuliers. Mais enfin, on parle de 8 à 10%, voire maximum 15%. On voit là qu'on est quand même bien loin des 50%,
déjà,
voire des 80%.
Il y a déjà un décret qui est passé. Et au 1er janvier 2025, la surprime catastrophe naturelle de la loi Barnier de 82, elle va passer de 12 à 20%. Au départ, elle était à 5% en 82.
Ouais.
Donc, en fait, c'est un fonds qui est géré par les assureurs. L'État, effectivement, supervise. Mais c'est,
non, l'État prend une part, justement. Et plus l'État se sert, justement, dans ce fonds-là, plus les différents assureurs vont le répercuter sur le prix.
Il y a deux choses. Il y a ce qu'on indemnise, ce qui est indemnisé aux particuliers en cas de sinistre. Et puis, il y a un fonds pour... de prévention et pour déménager les gens qui seront emménagés. Mais en fait, le gros sujet, et c'est notamment les argiles qui se rétractent, le gros sujet, il y a à peu près 10% des maisons qui sont atteintes de ces retraits argileux et cette fissuration.
Oui.
Le gros sujet, c'est l'indemnisation des catnats, comme on dit, des catastrophes naturelles. En sachant que l'érosion côtière qui grignote n'est pas une catastrophe naturelle, elle n'est pas dans ce fond. Si votre maison se rapproche trop de la mer, si je dis plutôt que la mer se rapproche trop de votre maison et qu'elle est démolie, ce qui est arrivé à Soulac sur mer, eh bien vous n'êtes pas indemnisé.
Ils l'ont été à titre exceptionnel pour
bien sûr.
À titre exceptionnel, après des années de...
Et puis il y a quand même un encadrement qui est là quand on voit,
alors,
par exemple...
Mais on peut dire la même chose du système bancaire français qui est très protecteur aussi et qui est très encadré, et effectivement.
Oui, ou
ça
même
permet
du système de santé, de la sécurité
sociale,
je pense.
Mais bien sûr,
un
non mais c'est vrai qu'on avait le choix de mutualiser ce risque.
Oui, de mutualiser ce risque, et quand on sait justement...
Mais ce choix a été fait.
Ce choix a été fait.
En 82, par
Michel
Barnier.
Par Michel.
Qui était déjà présent, mais c'est vrai que quand on voit quand même la multiplication des risques, et puis quand on voit ce qui s'est passé là sur trois mois, et en plus à Mayotte, qui est quand même un territoire français, faut quand même le dire.
Ce qui est plus grave, c'est que dans certaines régions, et j'ai vu une carte de France, les assureurs résilient le contrat, ils ne veulent plus assurer. Donc là,
c'est autre chose. Mais après,
Non, parce que c'est lié à la catastrophe naturelle. Ils ne veulent plus assurer dans le Nord...
Oui, alors après, les gens ont quand même besoin d'être aussi assurés. Donc, si personne ne veut les assurer,
c'est compliqué. Dans ces cas-là, il y a une procédure pour qu'on vous désigne un assureur obligatoire.
On va avancer, mais c'est un sujet. Mais on fera peut-être un sujet spécial assurance. Merci. Alors, vous avez aussi un coup de cœur.
J'ai un mini coup de cœur.
Je vais vous dire, j'y étais. Quand ça a été annoncé par Grégory Doucet, le maire de Lyon. Et c'est vrai que c'est suffisamment remarquable pour le souligner.
Oui, mais malheureusement, ça ne va pas être...
Un plan d'adoption de 7000 logements qui est prévu...
Réparti en 118 opérations.
Absolument.
Acquis justement par l'agglomération lyonnaise en partenariat avec des bailleurs et avec la FPI, il faut également le préciser. Donc grâce à une enveloppe de 10 millions d'euros destinée à financer le rachat de logements en bloc.
C'est ça.
Oui, vacants justement par les promoteurs pour les recommercialiser. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui va être testé que sur un an, puisque l'expérience ne sera pas renouvelée pour 2026, donc voilà, on va dire que c'est un one shot, mais qui peut éventuellement...
aussi le moyen, mais qui permet aussi de dire qu'en dehors des opérateurs comme Action Logement ou le CDC Habitat qui avaient soutenu l'offre par leur achat en bloc, pour savoir que quand même ces deux opérateurs ont un peu sauvé certains promoteurs en rachetant un bloc, là on a quand même une collectivité locale qui a été très proactive là-dessus, pour le souligner, c'est la métropole
puis,
de Lyon.
Et qui peut aussi peut-être faire certains émules et voir si si le modèle peut être
absolument
reproductible ailleurs.
Il faut le souhaiter. Merci pour cette revue du Grand Jury. On va passer maintenant sur le cœur de notre émission. On va parler de rénovation énergétique. C'est le chantier du siècle, tout de suite après ça.
Le Grand Jury de la presse immobilière. Le grand sujet.
Franck Coniga, bonsoir.
Bonsoir Sylvain.
Comment allez-vous ?
Écoutez, je vais très bien. Je vous souhaite une bonne année.
Merci. Alors, vous êtes directeur général de Sofinco, vous êtes un homme d'action. On est ravis de vous recevoir. Moi, ça fait très longtemps que je vous connais. Vous êtes un grand professionnel aussi de la finance et de la banque. Hein. Vous êtes banquier, pour le rappeler. C'est votre métier de prêter, c'est votre métier de financer. Et on voit que Sofinco, que vous représentez, dont vous êtes le directeur général, pivote véritablement et massivement sur la rénovation énergétique, puisque le 24 octobre dernier, vous communiquez sur le lancement de Sofinco Eco Transition, en Sofinco qui ambitionne, ni plus ni moins, d'être et de devenir le leader de la rénovation énergétique en France. C'est tout un programme. Je vous propose, avant de commenter ce que vous avez entendu, d'écouter un reportage qui a été tourné. On a interviewé, vous savez, vous connaissez Olivier Safar, qui est président de l'UNIS, qui représente les professionnels de l'immobilier, syndic, administrateur de biens et transactionnaire. Olivier Safar pour le Grand Paris, qui va introduire le débat. Vous allez voir, c'est pas triste. Écoutez.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans le cadre du Grand Jury de la presse immobilière. J'ai le plaisir d'être avec Olivier Safar. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour Bérédice.
Vous êtes le président de l'UNIS Grand Paris et Île-de-France. Oui. Un petit mot peut-être sur l'UNIS, qu'est-ce que vous faites ?
On fait beaucoup de choses. D'abord, on est un syndicat professionnel. On défend nos adhérents qui sont des syndics, des administrateurs de biens, des agents immobiliers, des experts. Et on est spécialiste effectivement de toute la partie immobilière, que ce soit en copropriété, en gestion locative ou en transaction.
Alors, on va parler du gros sujet du moment, hein, la rénovation énergétique. On en parle beaucoup dans les médias. Je pense que les journalistes qui sont en plateau seront d'accord avec moi. Pourquoi il est important de rénover son habitat ?
Alors, on a plusieurs points. D'abord, un premier point, c'est pour que les habitats, c'est-à-dire l'appartement dans lequel vous êtes, soient en bon état. En bon état, d'abord, c'est le critère de décence. On en parle dans les différents documents juridiques, on le sait, mais c'est aussi pour que vous soyez heureux dans votre appartement. Et c'est une question de chaud et de froid.
Ah oui, on appelle ça le confort thermique, c'est ça?
Ça s'appelle le confort thermique. C'est-à-dire qu'en hiver, que vous n'ayez pas froid, mais qu'en été, vous n'ayez pas trop chaud non plus, mais que vous ayez aussi une aération dans votre appartement pour qu'il y ait un renouvellement d'air.
C'est important.
Et ça, c'est très important. Et c'est le point qui est le plus mal compris dans la partie rénovation énergétique. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de propriétaires qui ont dit c'est facile, je change mon chauffage, je change mon vitrage, je passe de simple vitrage en double vitrage, ça ira beaucoup mieux. Et pas du tout. Si vous n'avez pas modifié la ventilation de votre appartement, vous allez vous retrouver dans un appartement avec des moisissures partout.
Parce que
et
trop
avec de l'humidité,
hermétique en fait.
Parce que trop hermétique, parce qu'il n'y aura plus la ventilation nécessaire à l'appartement et ce renouvellement d'air.
Alors justement, on parle beaucoup aussi de la rénovation énergétique avec la fameuse loi climat et résilience qui oblige, alors là c'est pour les propriétaires bailleurs pour l'instant, qui les oblige à faire des travaux de rénovation énergétique en fonction de leur DPE.
Oui. Ça, c'est une nouveauté. Elle existe déjà depuis quelques années, sauf que personne ne s'était rendu compte que c'était aussi près par rapport à la loi climat et résilience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier, si votre appartement est classé G sur votre DPE, c'est-à-dire la plus mauvaise note, vous n'avez plus le droit de relouer l'appartement tant que vous n'avez pas réalisé les travaux de remise en conformité de l'appartement pour que vous soyez ou en C ou en D, mais dans une autre lettre qui ne soit ni G, ni F, ni E. Pourquoi ni F ni E ? Pourquoi ? Parce que dans 3 ans, ça sera la même chose pour les appartements F et 3 ans après, bien évidemment, pour les appartements qui sont E.
C'est vrai qu'il y a le calendrier qui interdit. Alors, ça concernerait ces logements en location qui sont G, ça concernerait 568 000 logements.
C'est le chiffre que l'on annonce. Nous, on n'est pas capable de le calculer exactement. Ouais. Mais on sait déjà que pour Paris, c'est plus de 200 000 logements. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de petits appartements qui sont concernés par ces notes. Pour une seule raison, c'est que le calcul et la méthode de calcul de ces DPE n'est pas du tout adaptée à ces petits appartements. On l'a signalé plusieurs fois au ministère. On a réussi à avoir une modification, sauf que la modification est tellement faible que ces petits appartements qui se retrouvent soit sous les toits, soit au rez-de-chaussée, soit contre une paroi froide, même en ayant modifié le calcul, ne donnent pas le bon résultat. Mmh. Et on est toujours coincé là-dessus, sachant que dans certains cas, bah, les propriétaires, même s'ils font les travaux à l'intérieur de l'appartement, ne pourront pas sauter de classe énergétique si la copropriété, l'immeuble en totalité, ne lance pas ses travaux de rénovation énergétique.
Bon, on l'a bien compris. Donc, les propriétaires bailleurs sont obligés de rénover. Hein, là, c'est la loi qui le dit, pour pouvoir continuer à louer leur logement. Les propriétaires occupants, ceux qui habitent le logement, sont aussi, entre guillemets, plus ou moins obligés de rénover pour une question de confort. On l'a vu, il fait très froid, là, par exemple, à Paris en ce moment. C'est vrai que être dans une passoire thermique, c'est pas agréable. L'électricité, le prix du chauffage, le gaz a augmenté. Donc forcément, quand on est mieux isolé, les factures baissent. Il y a aussi les bouilloires thermiques. Maintenant, on les appelle. Hein, l'été, oui. Il fait trop chaud. Donc voilà, on a besoin de rénover.
On a besoin, sauf que nos propriétaires occupants n'ont pas les mêmes obligations que le propriétaire bailleur, pour le moment. Mais ça sera à faire quoi qu'il arrive. On s'est rendu compte au moment où on a eu l'augmentation vertigineuse des coûts, soit l'électricité, soit du gaz, que bien évidemment, il fallait analyser les charges. On a vu les charges augmenter pour certaines le double, voire le triple en matière énergétique. Et là, on a eu beaucoup de copropriétés et beaucoup de propriétaires qui se sont dit là, il faut et agir. Oui. Là, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est plutôt positif. Mais le temps est plus long qu'on l'imagine pour arriver à faire engager tout le monde dans ce type de travaux.
Merci pour cette interview, Bérénice de Villeftorio. Une réaction, Franck Oniga ?
Oui, bon, on voit bien la complexité du sujet. Moi, ce que je veux vous dire ici, c'est la raison pour laquelle Sofinco a décidé d'accélérer sur cette question de la rénovation énergétique. C'est d'abord, je crois que c'est vraiment central, c'est que c'est un enjeu majeur pour notre société. Et en 3 ans, le monde a beaucoup changé sur ces questions-là. On avait d'abord le sujet, évidemment, de l'urgence climatique, de la fin du monde, en quelque sorte. S'est ajoutée la question de la fin du mois, donc de l'urgence budgétaire, qu'on pourrait appeler comme ça, liée à l'explosion de l'inflation. Et désormais, depuis le début de l'année, ça a été rappelé, nous avons l'urgence réglementaire, puisqu'on ne peut plus louer les passoires thermiques. Et lorsqu'on empile ces contraintes, on voit bien qu'il faut absolument réagir sur cette question-là et donner une impulsion nouvelle à cette question du financement de la rénovation énergétique. Et il faut bien le reconnaître, tout est en place pour que ça ne décolle pas, aussi bien du côté des particuliers qui ne savent plus à quel sein se vouer, je dirais, à quelles aides ils peuvent prétendre, que des professionnels qui sont trop peu nombreux encore, et on peut les comprendre d'ailleurs, à être RGE et à pouvoir accompagner leurs clients dans ce domaine-là. Conséquence très immédiate, hein, 70% des aides seulement ont été levées sur MaPrimeRénov, et je passe sur les allers-retours que vous avez observés l'année dernière en termes de gestion, enfin de prise en compte des monogestes, non prise en compte des monogestes entre janvier et mai 2024, ce qui a quand même donné un coup d'arrêt aux ambitions des particuliers qui en avaient encore sur le sujet.
Alors, on voit bien que les Français, Régis, vous l'avez dit tout à l'heure, ont du mal finalement à financer la rénovation énergétique. Un petit peu, une réaction de nos amis journalistes. Quel regard vous portez finalement sur à la fois ces contraintes qu'on a l'impression d'avoir, à la fois des injonctions qui sont contradictoires, mais aussi un empilement de contraintes qui ajoute à la contrainte. La profession avait espéré d'ailleurs sursoir au calendrier avec les ITKG. Il faut savoir que le député Marchive et Inaki avaient introduit un projet de loi qui visait à dire que si les propriétaires prenaient l'engagement de faire les travaux, ils avaient 2 ans pour le faire. Voilà, la parole circule. On va commencer peut-être par vous, Virginie, s'il vous plaît.
Nous, on est aussi spectateurs et les premiers à devoir écrire sur tous ces sujets auxquels parfois on arrive à plus du tout suivre le fil et à plus rien comprendre. Et donc il est évident que pour les particuliers, qu'ils soient propriétaires ou locataires, peu importe, ils ne connaissent pas... je pense que les gens ne connaissent pas très bien la réglementation. Déjà, il faudrait qu'ils la connaissent. Ensuite, deux, il y a des aides, il y a des financements, on en parlera peut-être.
Quand on peut les obtenir.
Oui, oui. Il y a une méthodologie surtout de travaux à faire. Notamment, il faut commencer plutôt par isoler et pas forcément changer le chauffage, etc., etc. Il y a, j'allais dire, une instabilité qui existe depuis, toutes ces dernières années, en fait, rien n'a été stable dans, dans le déploiement de ce qu'on a demandé, et on ne savait même pas très bien ce qu'on demandait aux gens. Donc forcément, tout le monde s'est pris les pieds dans le tapis. On a pu écrire à peu près tout et son contraire. Et donc on se retrouve avec effectivement, finalement, pas beaucoup de travaux, pas beaucoup de crédits engagés, des aides qui sont extrêmement difficiles à percevoir, des solutions de financement ou autres d'ailleurs, mais que les professionnels n'ont pas forcément envie de déployer. Je pense au financement des travaux de copropriété, bah parce que en face, ils se... c'est pas très bien comment ça va se passer. Des délais décisionnels, je continue de parler des copros, qui sont extrêmement longs. Fiasco assez... Enfin, je vois pas très bien comment ça aurait pu se finir par une réussite.
En Koniga,
bon, je partage ce point. La question du financement est une des questions qui se posent. Ce n'est pas la question centrale. Et pour répondre à une assertion qui a été faite, nous acceptons 90% des demandes de crédit qui sont réalisées par les propriétaires sur les travaux d'éco-rénovation. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de sujet...
Mais à titre individuel.
De sujet d'accès au crédit. À titre individuel, le sujet des copros est un sujet qui est important, sur lequel Sofinco n'est pas un opérateur, donc vous permettrez de ne pas commenter particulièrement ce point.
Mais ça aurait pu être un marché sur lequel vous seriez allé.
Vous ne faites pas de prêt à des copropriétés.
Non,
nous sommes très actifs sur les particuliers, maisons individuelles, habitats individuels. Et mais nous ne sommes pas l'opérateur des copropriétés.
Pardon, rien ne vous a incité non plus à développer une offre à destination des copropriétés. Alors que ça aurait pu être un axe de développement et d'acquisition de nouveaux clients.
Nous avons considéré que nous devions procéder par étapes et nous étions déjà historiquement présents sur ce marché de la rénovation énergétique, puisque sur ces financements spécialisés, nous avons 20% de part de marché. Et donc, nous construisons la démarche par étapes. La première démarche, c'est une démarche d'accélération, donc d'investissement en collaborateurs, chargés de ces questions-là. C'est plus d'une centaine partout sur le territoire. Et puis, investissement financier, puisque nous, ce qu'on souhaite faire, c'est un peu accompagner les ambitions de notre pays sur cette question qui consiste à doubler l'effort. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est doubler l'effort de financement et passer de 500 millions d'euros en 2024 à 1 milliard d'euros sur ces questions à horizon 2027. On voit bien qu'en réalité, si on regarde la taille du marché aujourd'hui, peu ou prou, on est à 50 milliards d'euros mobilisés. Il faudrait être à 100 milliards pour être en cohérence avec évidemment les accords de Paris, mais aussi et surtout la loi climat et résilience. Donc en fait, le compte n'y est pas.
Alors justement,
c'est quoi,
pardon,
le
à propos de compte
de vos dossiers.
Ça allait être ma question, mais c'est de savoir quel est le montant moyen de financement pour quel montant moyen de
travaux. Et les typologies de financement, s'il y en a.
Alors évidemment, c'est difficile de répondre à un montant moyen puisque vous avez une variété de travaux qui est extrêmement différente. Selon que vous changez votre système de chauffage ou que vous faites une rénovation globale ou une rénovation d'ampleur, c'est pas du tout le même montant que vous engagez, ni d'ailleurs la même durée de financement. Donc ça n'a pas, je dirais, grand intérêt. Sur les rénovations d'ampleur, nous on va jusqu'à 50, 70 000 euros. De financement, et puis on démarre à 5000 euros. Vous voyez, donc vraiment, c'est tout type de dossier que nous finançons sur des durées extrêmement variables, de 1 an à 15 ans. Et là encore, en fait, il s'agit d'adosser la durée du financement en fonction du montant de l'investissement pour pouvoir absorber l'échéance dans son budget, qui est un enjeu clé.
Bruno Mognovina.
Vous nous avez parlé d'une maison d'habitat individuel, donc finalement... est-ce que la motivation d'éco-rénovation, elle vient pas plus du coût de l'énergie que d'une obligation réglementaire ?
Bon, l'obligation réglementaire, elle est plus récente au fond que l'explosion du coût de l'énergie. Alors, on nous annonce 14% de baisse du tarif de l'énergie réglementée là pour le mois de janvier, c'est très bien. Ça a augmenté.
On a plus 70.
C'est ce que j'allais dire. Vous me l'enlevez de la bouche. Ça a augmenté. Alors moi, j'allais dire plus 40 depuis 2022. Ça dépend du point de départ sur votre variation, mais plus 40 ou plus 70, tout ça est extrêmement mordant pour le budget des ménages. Donc oui, la principale motivation, et nous, c'est ce qu'on a vu dans le dernier Sofinscope, c'est faire des économies budgétaires, il faut dire les choses simplement. La conscience écologique s'est installée dans notre pays, mais la conscience du portefeuille, elle est encore plus forte.
Mais il n'y a pas de risque d'indécence ce ne sont pas des maisons qui sont louées, notamment. Ce sont des résidences principales, j'imagine.
Alors, ce sont pas mal de résidences principales. En effet, beaucoup de propriétaires qui font appel à nos services via, en fait, des professionnels du bâtiment, des entreprises du bâtiment, qui engagent des travaux de rénovation. Ce sont eux qui distribuent les crédits de Sofinco et qui leur permettent, en fait, d'avoir des réponses assez rapides, hein, par rapport au reste à charge, qui va avoir tendance à être de plus en plus élevé, puisqu'on voit bien que le budget de l'État est extrêmement contraint et que le niveau des primes est assez limité, au fond. Le niveau des primes est limité et extrêmement compliqué. Ma prime rénove, les C2E, les incitations locales, il y en a à peu près à tous les étages.
Exact.
Alors, ma question dans la question, oui, c'est en fait le souci d'économie d'énergie, proprement dit, mais aussi, est-ce que c'est pas lié au fait de ne pas pouvoir, à cause des prix, de ne pas pouvoir... La maison individuelle a eu des prix qui se sont envolés après le Covid. Est-ce que c'est aussi la façon de vivre dans une maison qui a été peut-être achetée à un prix un peu moindre et faire des travaux pour y vivre, notamment des travaux de rénovation énergétique?
Bon, ça a été dit dans le reportage juste avant. Il y a un vrai sujet de valorisation du patrimoine et du bien vivre chez soi qui s'installe également. Donc, je dirais les enjeux convergent en réalité. Hein. Mmh. Donc, c'est un petit peu tout ça, ce qu'on observe nous sur le terrain avec nos clients et nos partenaires.
Anthony,
600 partenaires.
Mmh. Anthony, vous voulez intervenir?
Non, c'est juste qu'effectivement, d'une intention louable qui était de faire en sorte de sortir des différentes passoires thermiques et de faire en sorte que les logements soient rénovés et habitables correctement, on en a fait quelque chose, une espèce d'usine à gaz qui est incompréhensible pour beaucoup de gens. Et en fait, aujourd'hui, on se demande si l'investisseur privé, le bailleur, sait qu'il est soumis justement à cette contrainte réglementaire, sinon il ne pourra plus louer. Donc en fait, il a arbitré soit à faire des travaux, soit à vendre, parce qu'en fait, il est plus intéressé, pour lui, c'est beaucoup trop cher et c'est beaucoup trop de contraintes, donc en fait, il va vendre. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que, je crois que vous y avez partiellement répondu, est-ce que les propriétaires qui occupent leur logement, c'est-à-dire qui ne sont pas des bailleurs, mais qui occupent leur résidence principale, aujourd'hui effectuent ces différents travaux de rénovation, alors qu'on a l'impression que c'est surtout un peu ceux qui ont le couteau sous la gorge, c'est-à-dire les propriétaires bailleurs qui se retrouvent contraints d'effectuer.
C'est une très bonne question, Anthony, vraiment une très bonne question. C'est une question qui nous est posée par les auditeurs souvent. On a l'impression que les propriétaires occupants sont un peu les laissés pour compte des contraintes obligatoires, puisque c'est vrai que, si vous y réfléchissez bien, ce sont des contraintes essentiellement pour les propriétaires bailleurs. Quand on est propriétaire occupant, finalement, on peut continuer à se les geler à la maison et avoir chaud l'été.
Si jamais on l'accepte, oui.
Est-ce que dans la typologie, vous, ce que vous disiez tout à l'heure, vous y avez partiellement effectivement répondu, c'est beaucoup de propriétaires occupants qui sollicitent les compléments de financement.
Oui, beaucoup de propriétaires occupants, surtout motivés par le sujet évidemment du coût de l'énergie. Et ce qu'ils nous disent en moyenne, hein, dans le Sofinscope, c'est que lorsqu'ils effectuent des travaux d'économie d'énergie, ils observent une baisse de leur facture de 14%. 14%, c'est assez significatif.
Je vais demander d'ailleurs à Baptiste de nous mettre l'infographie du Sofinscope à l'écran pendant que vous commentez ces chiffres. Baptiste, voilà.
Et une façon d'appréhender cette question, selon nous, c'est de pouvoir apporter en proximité de la simplicité. C'est-à-dire, il va falloir arrêter avec cet empilement de règles, ces complexités pour les professionnels et pour les particuliers. Et seul un acteur d'hyper-proximité comme Sofinco, par exemple, peut l'être, est en capacité de le faire. C'est notre ambition sur le
sujet.
Alors,
je vais vous donner la parole, bien sûr, Isabelle, mais je voudrais juste bien commenter. Donc, 86% des Français ont adopté des éco-gestes. 72%, c'est donc les chiffres de votre Sofinscope, ont moins chauffé leur logement en hiver et 83% les trouvent insuffisantes pour réduire leurs factures. On voit bien que, et vous dites également dans les chiffres qui sont positifs, que 71% des Français qui se sont lancés dans les travaux de rénovation énergétique pour réduire la dépense de leur logement, ça leur a permis de réaliser jusqu'à 14% d'économie.
C'est ça, 14% d'économie.
Donc on voit bien les effets. Hein.
Mais c'est savoir si on parle en économie d'énergie ou en économie d'argent, parce que c'est pas la même chose.
C'est sans ambiguïté, je pense, une économie d'argent dont il s'agit ici dans le Sofinscope. Hein.
Les deux sont liés, je pense.
Oui,
oui, absolument.
Alors justement, vous aviez dit également sur Sud Radio, quand je vous avais interviewé, qu'il fallait pas se leurrer, que les coûts énergétiques allaient augmenter, que nécessairement, de toute façon, le processus de transformation de l'habitat, de l'éco-transition, était un schéma irréversible si on voulait maintenir la valeur à la fois de son actif, mais aussi du confort de vie des Français.
Oui, je pense qu'on ne prend pas beaucoup de risques à anticiper sur le long terme une hausse de l'énergie. Et compte tenu de l'état de notre parc immobilier, il va falloir changer d'approche pour pouvoir débloquer la situation. Pour nous, la situation est quasi bloqué. L'année prochaine, on souhaite en France faire 400 000 gestes d'économie de rénovation énergétique et péniblement, on va atteindre les 200-250 000 gestes cette année.
170 000 même.
Voilà, 170 000. Donc, on vise 400 000 l'année prochaine. Je crois que c'est Einstein qui disait qu'il n'y a qu'un imbécile pour penser que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Donc, je dirais, l'affaire est mal engagé, encore que...
Mal engagé, oui, voilà. C'est bien le mot que... C'est bien. Isabelle.
Oui, effectivement, c'est un peu désespérant ce dossier, mais moi j'ai vu deux collectivités locales qui ont fait des choses très... notamment pour les copropriétés. Annecy, la ville d'Annecy, maintenant c'est le Grand Annecy, va même jusque dans les assemblées générales de copropriétés présenter des projets, les suit jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation, et ils obtiennent des résultats, notamment en matière d'économie d'énergie. Mais c'est parce qu'il y a cette proximité, ce que vous disiez, un accompagnement gratuit et très fort de la collectivité. Paris le fait aussi, par exemple, dans son parc social, elle a obtenu, mais c'est parce que c'est des propriétaires professionnels qui savent faire ça, elle a obtenu quand même des gains énergétiques très importants, de 25 à 30%, mesurés par un laboratoire indépendant. Et elle, avec son coach copro, elle aussi, elle essaye, avec succès, d'engager les copropriétaires sur un chantier de rénovation. Donc je pense que la clé du succès, c'est cet accompagnement, mais vraiment au plus près, qui lève toutes les objections de la copropriété, des opposants des copropriétaires, de trouver les interlocuteurs, les experts, les artisans, etc. Mais, donc c'est un investissement important pour les collectivités locales.
En même temps, si les dispositifs étaient plus lisibles et
bien
plus
sûr,
simples, avec des réponses plus
bien
efficaces
sûr.
Et un meilleur suivi des dossiers, il n'y aurait pas besoin de coach.
Oui, je partage et je rajouterais l'idée de...
Donc, en copropriété, c'est compliqué.
Hein. En copro, c'est compliqué.
J'ajouterais l'idée d'attelage entre les pouvoirs publics et les acteurs privés, en réalité, puisqu'on voit bien la limite ou les limites de l'action publique sur le sujet. Mais c'est vraiment un attelage qu'il faut réaliser en proximité. Je veux saluer le travail de l'ANA, d'ailleurs, qu'on critique beaucoup, parce que bon, c'est assez classique dans notre pays.
Nous, mais ils ne vont pas jusqu'au bout, justement.
Mais écoutez, nous travaillons avec l'ANA, je vous en reparlerai, nous travaillons en proximité avec l'ANA. Je pense que les 600 points France Rénov' sont essentiels et il va falloir les faire connaître aussi, et les acteurs privés peuvent relayer
Mais c'est ça surtout, c'est que personne ne sait qu'il y a 600 points d'information sur ça. Et c'est ça le problème, en fait. C'est d'avoir des personnels formés. De savoir que ça existe. Deux, d'avoir des personnes qui sont en capacité de répondre. De répondre facilement, clairement, de manière pédagogique et de dire, voilà, ben, vous êtes dans telle situation, vous aurez droit à tant d'aide et voilà. Et si déjà ça, cette chaîne-là, vous pouvez, nous avons des partenaires de financement, etc. Si déjà il y a, on sait que ça existe et que deux, il y a une vraie réponse, enfin une réponse fluide.
Ouais.
C'est déjà beaucoup de choses. Et après, il y a pas besoin de. Alors, je suis d'accord que les copros, c'est une autre problématique.
Ouais, comme
ça
tu
nécessite.
Dit.
Mais sinon, il n'y a pas besoin de tout ça.
Absolument. Sur l'approche individuelle, effectivement.
Parce qu'après, c'est quand même défini. Enfin, pardon. Hein, oui. Je finis, mais quand on dit la mairie de Paris ou celle d'Annecy accompagne gratuitement. Oui et non, gratuitement, ça va forcément être un coût pour les finances publiques, c'est-à-dire taxes foncières en hausse, etc., etc. Il n'y a rien de gratuit.
Non, mais la question de la connaissance des dispositifs est centrale. Et je prends l'exemple des simulateurs, par exemple. Alors, il y a d'excellents simulateurs. Par exemple, GécoRénov du Crédit Agricole, évidemment. Mais il y en a beaucoup, des simulateurs. Et en réalité, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont méconnus des Français. Pourquoi ? Parce que, sauf à investir des dizaines de millions d'euros en plan média, de la télé, hein, pour faire court, chaque année, et personne ne le fera, ces simulateurs resteront méconnus pour longtemps. L'autre approche, et c'est celle, et le mot a été cité, c'est le mot clé pour moi, c'est celle de l'hyper-proximité. Donc ces simulateurs, ces dispositifs, ils doivent être portés en proximité par les professionnels. Et j'ai envie de dire par les professionnels de l'immobilier au sens large, pas uniquement les entreprises du bâtiment qui sont là pour opérer les travaux, mais également les professionnels de l'immobilier, je pense aux agents immobiliers, à l'ensemble de l'écosystème. Et Sofinco Éco-Transition est en train de s'ouvrir à ses partenaires, alors que jusqu'à présent, nous étions centrés sur les entreprises du bâtiment. Mais je crois beaucoup à cette idée de porter en hyper-proximité les dispositifs, mais en les simplifiant au maximum.
Bruno Monnier-Binard, ensuite Anthony.
Pour évoquer le sujet de façon globale, on en a beaucoup parlé ici, on l'a beaucoup évoqué, mais moi je reprends juste l'exemple de bailleurs dans des villes, de bailleurs de petites surfaces, quel va être leur calcul ? Leur calcul, il est simple, hein, c'est quel est le retour sur l'investissement, au bout de combien de temps, finalement, ma facture va être gommée par les travaux, voilà. Dans l'hypothèse où, en plus, on gagne des classes énergétiques, ce qui n'est pas complètement... Donc on sait que ce sont pour les... Si c'est pour un travail individuel, on sait qu'il va y avoir une isolation par l'intérieur, qu'il va manger des mètres carrés. Quand vous connaissez le prix du mètre carré dans les grandes villes, vous rajoutez ça à la facture, etc. Mais au-delà de ça, je l'ai dit, moi, souvent, les bons élèves, en plus, ils connaissent rien du tout à la technique, quoi. C'est souvent des personnes âgées, pour un petit complément de revenus, etc. Et s'ils n'ont pas accompagné techniquement... Par des gens qui peuvent...
Techniquement et financièrement, je veux dire.
Et financièrement.
Je prends un exemple, mais je pense que vous en conviendrez, Franck Koniga. Le coût d'une pompe à chaleur, grosso modo, c'est quoi ? C'est entre 15 et 20 000 euros ?
Absolument.
Un
montant moyen de 18 000 euros.
Quand vous avez une maison, je ne sais pas moi, à Saint-Mandé, à Noisy-le-Grand ou à Aubervilliers même, et que vous avez la même maison, par exemple, dans le Perche, à Guéret ou dans la banlieue de Dreux, vous avez un prix au mètre carré habitable qui n'est quand même pas du tout le même. Par contre, le coût technique, lui, il est le même. Pour reprendre ce que tu dis, si tu veux, sur l'investissement, c'est pas évident d'expliquer à quelqu'un par rapport au prix de l'immobilier, ça s'entend plus lorsqu'on a la valeur d'une maison qui vaut 3 ou 400 000 euros, de faire 15 000 euros pour une pompe à chaleur, plutôt qu'une maison à périmètre constant qui est la même et qui vaut 2 fois ou 3 fois moins. C'est pas évident à expliquer, ça.
Assurément. Et les MAR, hein, donc
les MAR.
Vous demanderez à l'ANA qui les référence, mais en tout cas, ils ont un vrai rôle à jouer, puisque eux, ils font des diagnostics. Je crois que c'est 2260 euros, hein, le coût de base, hein, d'une approche. Déjà, vous avez un ticket au moins, hein, c'est le début. Je crois que c'est la prestation d'origine, enfin de base des MAR. Les MAR ont un rôle à jouer, et lorsque on envisage des rénovations d'ampleur, passer par un MAR, c'est quand même, je pense, un bon conseil, puisqu'il va pouvoir non seulement vous définir avec vous les travaux les plus utiles pour réellement faire des économies d'énergie, mais également l'ordre dans lequel vous devez le faire. Hein.
C'est quoi ? C'est un architecte, un assistant à la maîtrise d'ouvrage ?
Absolument. C'est ce type d'acteur qui est référencé par l'ANA. Ils sont assez récents, hein, dans l'écosystème.
C'est obligatoire, d'ailleurs.
Moi, il y a un sujet sur lequel je voulais avoir un échange avec vous, qui est la question de la stabilité des règles dans notre pays autour de MaPrimeRénov.
Justement, c'est bloqué depuis le 1er janvier, là.
Voilà, donc alors ça va, j'espère, sans doute rapidement.
Avec 700 700 et 1 milliard d'euros de moins de prévu sur le budget.
Oui, donc alors ça c'est la sous-consommation de l'année dernière, si vous voulez, qui a donné lieu à un rabotage compte tenu du contexte que vous connaissez. Mais bon, on observe quand même des allers-retours. On l'a commenté tout à l'heure dans notre échange, et c'est assez frappant de voir qu'au fond, ce sujet qui est pourtant un enjeu majeur pour notre société, il est un peu pris en otage de l'instabilité politique. Et je constate que sur d'autres sujets, nous avons su sédentariser, nous avons su préserver des budgets de façon pluriannuelle. Je prends l'exemple de la loi de programmation militaire, hein, donc sur 5 ans, donc il y a plus de 400 milliards d'euros que nous avons protégés des aléas politiques dans notre pays, qui vont être comme ça injectés pour l'effort de défense. Et pourquoi ne pas réfléchir à une loi de programmation pour la rénovation de l'habitat qui nous permette de protéger cette question de l'instabilité politique? Je crois que ça donnerait beaucoup de visibilité à l'ensemble des acteurs, parce que la question de la visibilité, elle est valable pour les entreprises, mais aussi beaucoup pour les particuliers, dont on peut comprendre les hésitations quand même.
Vous parlez d'or, on est tous d'accord.
Forcément, mais c'est comme si il faudrait aussi une politique du logement. Ouais. Hein, donc,
nous, les journalistes spécialisés, on a toujours dit depuis des années, je te voyais sourire Virginie, mais tu as raison, une loi de programmation qui stabiliserait notamment les promoteurs constructeurs, par exemple, et tous ceux qui se projettent dans la fabrique de la ville, puisqu'on sait, sont par définition des cycles à temps long. Et pas du tout compatible avec l'esprit. Vous êtes favorable, vous ?
Une homogénéité dans le traitement.
Absolument.
Pourquoi un Airbnb ne serait pas soumis à l'indécence énergétique
Je crois qu'il y a des dispositions.
Justement, je voudrais vous faire réagir et je voudrais qu'on enfonce le clou. On avait dit qu'on pouvait tous dire.
Je suis là pour répondre à vos questions.
Alors, l'ANA, effectivement, vous avez parlé de l'ANA. Comment vous arrivez à contrôler un phénomène inquiétant qui est celui de l'éco-délinquance, qui crée, à cause effectivement des dispositifs d'aide, hein, vous en avez tous entendu parler avec, on a vu des scandales autour du CO2, par exemple, avec les arnaques à la TVA, avec les C2E. On a vu également des faux dossiers transmis à l'ANA, dans le but de capter des aides, mais également des dossiers de financement un peu tronqués, truqués. Vous qui travaillez avec des milliers d'installateurs répartis sur tout le territoire, j'ai regardé le processus finalement de qualification, comment vous agréez vos installateurs. On a vu votre processus qui est très bien fait, très structuré. Franck Oniga, quel est votre avis sur ce phénomène qui crée des effets d'aubaine et qui finalement est délétère, puisque ça jette l'opprobre sur les meilleurs opérateurs qui eux font l'effort par exemple d'être ce que vous appelez debout RGE, c'est-à-dire reconnu garant de l'environnement, sans lequel on ne peut pas avoir les aides. Quelle est votre position et quelle est la position de votre groupe?
Bah, écoutez, nous, d'abord, notre rôle, ça n'est pas strictement de contrôler, mais je vais y venir, c'est de rendre les choses possibles et de financer les projets, pour que les projets puissent se faire. Mais vous avez parfaitement raison, c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup d'entreprises qui naissent chaque jour et qui se détruisent tout autant. Donc on a un rôle à jouer sur le dispositif. Le portefeuille de partenaires de Sofinco, c'est près de 2000 partenaires. Et la façon dont nous procédons, en fait, c'est un référencement. C'est-à-dire que tous les partenaires de Sofinco sont référencés. Et donc, à ce titre, on regarde usuellement, évidemment, les comptes de l'entreprise. Nous faisons l'ensemble des diligences, comme disent les banquiers, c'est un peu techno, mais les contrôles de Banque de France, ce type de contrôle que nous faisons sur les dirigeants des entreprises. Et puis après, nous avons un suivi tout au long de la relation et une remontée extrêmement rapide de toutes les réclamations clients. Et au fond, pour nous, le risque, il est plus dans l'exécution des travaux par les entreprises que le non-paiement du financement par le particulier.
C'est-à-dire,
un peu plus concrètement, ce que nous faisons, par exemple, avant de débloquer le financement, puisqu'on fait le déblocage directement auprès de l'entreprise qui fait les travaux, on envoie un SMS à notre client pour lui demander si les travaux ont été livrés et si ça lui convient. Et il nous répond oui, non. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Nous, on est des gens pragmatiques et ça nous permet tout de suite, de façon assez anticipée, et avant de débloquer les fonds, c'est toujours mieux
et si c'est
d'avoir
non,
une réponse.
Si c'est non, on
ne
débloque
si
pas.
Si c'est non, on ne débloque pas et puis on en parle avec notre partenaire. Et donc, au final, si vous voulez, vous avez chaque jour, vous avez des référencements de nouveaux partenaires pour Sofinco et puis aussi des radiations. Alors des radiations pour dépôt de bilan, hein, les entreprises qui déposent le bilan, il y en a tous les jours, mais aussi des radiations de notre fait parce que le niveau de qualité qui nous est remonté par nos clients finaux, c'est-à-dire les particuliers, n'est pas satisfaisant. 15% de radiation par an sur notre portefeuille, donc c'est extrêmement considérable.
Ce qui démontre, parce que c'est un chiffre quand même qui n'est pas neutre, que vous contrôlez véritablement tous les dossiers.
Absolument, et ce faisant, il faut
et vous avez
dire les choses directement, on
les
protège
contrôler.
Sofinco, et on protège aussi notre client de la qualité, enfin sur la qualité des travaux.
Franck Oniga, vous vous positionnez, j'aimerais aussi avoir votre avis, les amis, sur effectivement les dispositifs d'aide. Il y en a plusieurs, il y en a trois ou quatre qui s'empilent, que les gens connaissent peu. Le premier, le plus connu, hein, c'est celui de l'ANA, Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, avec des primes, et vous savez, il y a des codes couleurs, hein, des codes couleurs en fonction du niveau de revenu qui permet permet d'avoir des ménages les plus modestes aux plus riches un certain nombre d'aides. Il y a également les dispositifs privés hein, qui s'incluent également les C2E. Hein, le principe des C2E, c'est pollueur-payeur, effectivement, des quotas de carbone sur lesquels, effectivement, on finance les outils de rénovation énergétique. Et ensuite, les départements qui financent et qui bonifient éventuellement les aides à la rénovation. Il y a les éco-PTZ. Il y a également les ALEC locales, vous savez, les agences pour de l'énergie et du climat, qui donnent en fonction des collectivités locales. C'est très opaque pour le client. Enfin, il sait pas le faire. Donc, normalement, l'accompagnateur Rénov est là pour éclaircir un peu les choses. Mais quand vous voyez, par exemple, les rétropédalages successifs de l'ANA, même bien qu'ils essayent de faire le maximum, en sachant que depuis quand même le 1er janvier, ils ne payent plus rien parce qu'ils ne savent pas exactement à quelle sauce ils vont être dégustés cette année. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'entre 700 millions d'euros et 1 milliard d'euros de baisse sur les budgets, bien que, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, que c'est la non-consommation des budgets précédents qui a créé effectivement cet environnement, donc très bien pour l'État, hein, ça leur permet de faire des économies. Vous intervenez pour le complément de financement, on peut dire les choses comme ça?
Oui, ce qu'on appelle aussi le reste à charge,
oui. En réalité. Mais est-ce que plus largement, vous êtes tributaire, businessment parlant, des aides que l'on propose, ou est-ce que l'éco-transition chez Sofinco, ça peut être aussi un geste absolument unilatéral du propriétaire de vouloir améliorer, quelles que soient les aides, les conditions de son habitat?
Non, ça peut être un geste simple ou une rénovation d'ampleur, ça peut être du photovoltaïque qui n'a pas d'aide du tout, ou alors des dispositifs qui, eux, sont aidés. C'est vraiment l'ensemble du spectre que nous couvrons.
Alors justement.
Donc vous ne dépendez pas du déblocage des finances de l'ANA pour débloquer vos prêts.
Oui, c'est le sens de ma question.
Alors je comprends le sens de votre question. En fait, dans nos financements, nous pouvons préfinancer les aides. Donc, en réalité, ça permet.
Vous faites
souvent, les aides, ça équivaut à l'apport personnel dans un projet. Et donc, nous préfinançons les aides et nos dispositifs permettent de débloquer les fonds, donc commencer à rembourser jusqu'à 6 mois. Après le déblocage des fonds. Donc en fait, on fait des avances sur subvention d'une certaine façon, parce qu'elles arrivent de plus en plus tard, ces subventions.
Vous pourriez donc avancer, si je comprends bien, imaginons j'ai 100 travaux, vous pourriez m'avancer les aides en avance, et quand je les perçois, par exemple...
Vous faites un remboursement partiel.
Sur un effet différé,
sur frais.
Et ça, contractuellement, c'est prévu.
Absolument. C'est comme ça, exactement, bravo Sylvain, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Et c'est utile aussi pour l'entreprise, puisque ça lui permet, si vous voulez, de ne pas attendre les réceptions des aides pour pouvoir avoir de la trésorerie. On sait bien
Qui perçoit les aides?
Il y a un sujet de...
Qui perçoit le budget quand vous financez? C'est l'installateur ou le client?
Ah non, alors nous, on finance l'installateur, mais c'est le client, l'emprunteur.
D'accord. Non, mais ce que je veux dire, les fonds transitent directement sur le compte de l'entreprise.
Absolument.
Ok.
Donc, qui les répercute derrière sur le client, forcément.
Voilà, exactement.
Pour les clients, pour ce mécanisme est un mécanisme classique.
Oui, c'est assez classique. Alors, tous les acteurs ne vont pas aussi loin dans la prise en charge et le préfinancement des aides. Mais pour nous, ça nous semble être la réponse la plus globale et la plus efficace aux questions qui sont posées.
Vous êtes un acteur très connu, puisque grâce à Sofinco, on a quand même reconstruit la France à partir de 1945. Non, mais c'est vrai. Vous avez été créé pour ça. Hein. Vous avez permis aux Français de se doter d'éléments électroménagers. Des meubles. Vous avez cette réputation dans les grandes surfaces de bricolage spécialisées, oui, notamment. On peut aussi utiliser les solutions de Sofinco, oui, si je veux moi-même faire des travaux. Oui. Donc, pour vous, ce marché sur la rénovation, finalement, il ouvre, indépendamment des aides, également un segment de marché beaucoup plus large.
Pour nous, c'est la nouvelle grande transition. Merci de rappeler un petit peu notre histoire. Nous sommes nés en 52 et la transition à l'époque, c'était la transition vers la société de grande consommation, mais qui a permis aux foyers de s'équiper chez eux.
De cuisiner, de chauffer, etc. C'est pas neutre.
Et donc, si vous voulez, on est très fiers de ça. Nous, on assume ça et on continue à le faire avec des grands partenaires connus de tous. Et une transition ne chasse pas l'autre, mais d'une transition à l'autre, quelque part. Et pour nous, la nouvelle transition, c'est celle de la rénovation de l'habitat et de l'urgence climatique.
On va bientôt se quitter. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour, si vous voulez, sur la thématique, avec vous également, pour finir peut-être sur une bonne image, parce qu'effectivement, on voit bien que les organismes financiers, les banques, les grands opérateurs se mettent à fond sur ce nouveau marché. Quand on vous dit, Anthony, par exemple, qu'on l'appelle le chantier du siècle, qu'on voit que les opérateurs de grands groupes bancaires se spécialisent, pivotent complètement sur l'éco-transition, vous le percevez comment, de votre point de vue ?
Je pense que c'est une bonne chose. Après, à mon avis, le principal problème, c'est la réglementation qui est beaucoup trop rapide, en fait. Et vous en avez parlé tout à l'heure, justement, par rapport aux différents acteurs. On voit aussi que quand on précipite les choses, il y a forcément des gens pas très bien intentionnés qui s'y engouffrent.
Qui créent les effets d'aubaine.
Exactement, c'est ce qu'on avait vu, qui sont pas forcément sérieux. Donc ça veut dire que moi, si je suis un particulier, je vais faire appel à quelqu'un qui va me faire une estimation, mais qui n'est absolument pas sérieux. Donc en fait, j'aurai guillemets claquer mon argent pour rien. Ensuite, je vais payer pour des travaux qui n'auront pas été en adéquation avec ce qu'on m'a dit précédemment. Et en fait, le problème de ce métier-là, c'est qu'à mon avis, il doit être bien encadré. Et le fait de précipiter un peu les règles et surtout le calendrier pour leur application fait que forcément, les gens sont un peu en panique, notamment ceux qui doivent louer. Ils se disent, mince, je vais plus être dans les clous. Donc, ça se trouve, mon locataire va se retourner contre moi. Donc, au final, ça fait faire des gestes un petit peu dans l'urgence. Et quand on agit dans l'urgence, on se tourne vers le premier venu et c'est pas toujours les mieux intentionnés. Donc, je pense que si l'intention est louable, peut-être que le calendrier devrait être un peu plus...
Virginie, justement, quand on a écrit sur le sujet, on en a beaucoup parlé. Comment vous percevez finalement ce qui est en train de se dessiner? On voit que 2025, c'est quand même en demi-teinte.
Oui, 2025 sera à peu près en demi-teinte. Je ne pense pas qu'il y ait tout d'un coup... déjà, il va falloir que ce projet de loi de finances soit adopté. Mmh. Après, il va falloir que... Alors, l'ANA, l'administration, les acteurs du crédit, les artisans, la chaîne de transmission de l'information, elle est longue et que ça arrive jusqu'aux particuliers. Je pense qu'il faut plutôt... et c'est pareil, les particuliers, quand ils font des travaux, tout à l'heure vous parliez des prix, c'est pas tant de comparer au niveau de prix, mais c'est de comparer aussi à terme, par exemple, vous allez revendre plus facilement une maison si la chaudière est récente, si elle est bien isolée, etc.
Participe à la valeur de l'actif.
Une valeur relative de marché, et puis il y a aussi tout le reste. Mais tout ça, ça s'inscrit dans des temps longs, donc le temps que... En plus, il faut qu'on garde le même gouvernement, je vous rappelle tout ça.
Oui. A priori, on va garder déjà la même assemblée.
On va y arriver.
On va garder la même assemblée jusqu'à juillet prochain, déjà, constitutionnellement.
Jusqu'à juin, gouvernement, on ne sait pas. Mais c'est la rénovation énergétique, il faut l'inscrire, comme le logement, dans un temps long.
La loi de programmation suggérée par Franck Koeniga. Isabelle Rey, justement, on voit maintenant qu'on a un groupe puissant, important, qui a une grosse capillarité, qui est très connu, qui pivote sur ses travaux, c'est pas anodin. On voit que le marché est gigantesque. Constat, justement, du point de vue du journaliste que vous êtes.
En fait, je pense que dans la performance énergétique, il y a aussi une demande de confort, de rénovation de l'habitat qu'il faut rénover, d'adaptation au vieillissement. Beaucoup de gens qui ont des pavillons, qui sont âgés, la maison est trop grande pour eux, les charges commencent à être trop fortes. Il y a une vraie demande sociale d'adapter nos logements. Et donc, les pépi-boomers vont mettre sur le marché pas mal de maisons. Donc, je pense qu'il y a une vraie demande sociale pour une rénovation d'ampleur, pas forcément qu'énergétique, mais aussi pour la chaleur, mais aussi l'adaptation au vieillissement, pour plus de confort. Et donc, oui, il y a un grand marché qui s'ouvre. Ce qu'il nous faut, c'est des acteurs qui nous donnent du clé en main. Et pour l'instant, on n'en a pas.
C'est clair. Bruno Bagnévina.
Moi, je trouve que le calendrier n'est pas super propice, mais je voudrais, notamment par rapport au surcoût des matériaux qui alourdissent la facture, mais ce qui peut aussi alourdir la facture du côté des maisons individuelles, et c'est pas souvent dit, je n'entends pas souvent, c'est le zéro artificialisation nette.
L'impossibilité de faire de l'étalage urbain.
On a vu les prix des maisons qui ont bondi. Du coup, les gens, pour s'acheter une maison, que ça rentre dans l'enveloppe, ils rognent sur les mètres carrés.
C'est vrai. On l'a constaté avec Bénissi, absolument.
Ils rognent sur les mètres carrés. Lorsqu'ils achètent quelque chose de neuf, a priori, c'est un des arguments aussi, c'est qu'ils sont dans une classe énergétique qui est bonne, quoi. Mais je ne sais pas si empêchement d'étendre de nouvelles constructions, etc., si ça n'a pas renchéri le prix et du coup, vous voyez, c'est
finalement l'effet ciseau. Mais absolument, mais de toute façon, ce que vous dites tout à fait vrai, c'est que les personnes ayant besoin de se loger vont déjà arbitrer, enfin, de façon consciente, mettre un frein sur les travaux. Mmh. Mais je le vois aussi sur la location. Les baux en cours en étiquette G, Franconiga, continuent d'exister. Et ils ne sont pas frappés de l'interdiction, sauf si le locataire enjoint le propriétaire. Mais ce qui est quand même pas croyable, c'est que un administrateur de biens nous disait que le renouvellement, il va laisser le renouvellement automatique, exprès finalement, parce que c'est automatiquement renouvelé, sauf si le locataire effectivement dit qu'il faudrait enjoindre les travaux. Mais vous savez que le propriétaire, si on l'oblige à faire les travaux, a une obligation de relogement de son locataire. Vous le saviez ça? Reloger le locataire. Donc là, pour un propriétaire, ça devient absolument rédhibitoire.
Si jamais le locataire en fait la demande, effectivement...
Oui. Vous voulez que je vous dise, il n'en fait pas la demande, en fait.
Non.
Parce qu'on est tellement à la rue aujourd'hui. Il y a tellement de personnes qui... On est tellement en galère pour trouver un logement. Et ça, je crois que Régis, tu peux nous le dire également.
Ah oui, mais exactement. Et puis, il y a des chiffres qu'on ne va pas avoir aujourd'hui, mais qui sont assez...
éloquents.
C'est que... Trouver un logement qui soit G ou pas
même,
G...
Ou même Z, hein, c'est pas...
C'est avoir son logement, déjà, donc c'est l'essentiel.
On en est là, hein.
Il y a des bonnes idées qui ont été émises sur le fait de pouvoir réduire un montant de loyer ou par rapport à cette classe DPE comme solution, justement, pour laisser les G... sur le marché locatif, ça peut être une solution, c'est pas la solution qui permettra d'avancer. Ce qu'il faut voir par rapport à cette question de la rénovation énergétique, il y a deux points importants. Il y a le point budget qui a été soulevé à plusieurs reprises. Le budget, on est sur deux années immobilières qui ont été réglementées par ça. C'est-à-dire que le budget était tellement limité qu'il ne correspondait pas au prix. Ce qui fait que des gens ont acheté plus petit ou ont pu acheter des classes énergétiques moins bonne
et dégradée, absolument.
Par rapport à la limite de leur budget. Ces gens-là, demain, comme ils sont déjà aujourd'hui à la limite de leur budget, ne pourront pas accéder facilement à la rénovation énergétique. Donc, eux s'engagent à payer un peu plus pendant longtemps. C'est un surcoût. Le deuxième point qui est extrêmement important sur la rénovation, il a été relayé tout à l'heure par Virginie, c'est la non-précision et le non-concret de qu'est-ce que c'est la rénovation. Par quoi je commence, combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Et tant que ça ne sera pas clair, ça ne donnera pas envie aussi d'agir.
C'est très clair. Justement, conclusion, vous, c'est chez Sofinco, vous ne vous contentez pas uniquement de financer le reste à charge ou faire l'avance, vous accompagnez également vos partenaires.
En fait, on l'a compris, ça a été dit. Hein. L'objectif, c'est de simplifier en proximité. Donc, si on reste sur le seul sujet du crédit, qui est important, hein, c'est notre métier historique, et encore une fois, 90% d'accord sur les demandes de financement, on est très fiers de pouvoir le dire. Si on reste centré sur cette question-là, nous n'aurons pas levé les freins multiples que nous avons évoqués dans le cadre de notre échange. Donc progressivement, nous allons évoquer les sujets d'assurance, nous allons évoquer les sujets des services qu'on peut apporter en proximité via nos partenaires pour que ça puisse être facile d'accès pour l'ensemble des Français. La grande question, et je veux quand même attirer votre attention sur ce point, la grande question que nous avons pour l'année 2025 est la situation financière des Français. Hein.
Du pouvoir d'achat.
En deux ans, les inscriptions au fichier des interdits bancaires ont augmenté de 17% hein, dans notre pays, donc c'est pas neutre. Ainsi que les admissions en commission de surendettement de la Banque de France, essentiellement pour des raisons d'événements familiaux, hein, d'imprévus, de divorce, de perte d'emploi, ce type de sujet, et désormais minoritairement, et je m'en félicite, pour des questions de surendettement liées au crédit, puisque la situation a beaucoup évolué dans notre pays, mais ça reste quand même une hausse hein, assez forte des admissions en Banque de France, et donc nous surveillons ça de très près.
Merci beaucoup, Franconiga. J'espère qu'on vous a inspiré et puis donné des informations concrètes. Alors, bien évidemment, on n'est pas des magiciens, on ne va pas donner la boule de cristal qui va vous donner tout de suite les solutions, mais elles existent. Et effectivement, vous l'avez dit très très précisément, vous avez les MAR, les bons accompagnateurs Rénov, hein, c'est pas gratuit non plus. En sachant que vous pouvez être aidé, vous avez également des organisations comme la vôtre qui sont prêtes à vous aider. particulier, parce que l'avantage que vous avez, Franck Koenigsegg, c'est que vous avez une très grosse capillarité géographique, vous êtes partout. Donc on peut trouver effectivement les conseillers. Les entreprises aussi sont très importantes, sont des relais extrêmement importants que vous sélectionnez, c'est vos installateurs agréés. Et le premier conseil qu'on leur donne, c'est bien sûr la labellisation. Juste une idée, quelqu'un qui n'est pas RGE et qui viendrait devenir partenaire de Sopinsco, c'est possible ?
Bien sûr, puisque vous voyez, le photovoltaïque n'est pas aidé, donc on n'a pas besoin d'être
RGE. En fait, ce qui compte pour vous, c'est la qualité des travaux.
La qualité du partenaire. Nous, on essaie de faire un crédit de qualité, donc on sélectionne des partenaires de qualité.
Bien sûr. Et on trouve toutes les infos, bien évidemment, pour Sopinsco et Contre-Transition sur votre site internet.
Merci, Sylvain.
Merci à tous. Franck Koenigsegg. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sopinsco. Sopinsco, résolument engagé pour l'éco-transition. Un grand merci à Anthony Denet. Voilà.
Merci à vous.
Voilà, vous serez à l'heure. Coupe de champagne tout à l'heure. C'est Anthony qui rase. Voilà, on était très heureux de vous recevoir. J'espère que vous allez avoir une très très belle année devant vous. Merci Anthony, un immense merci à notre Virginie Nationale, Virginie Grelot, journaliste chez Challenge. On va se voir bientôt sur BFM Business tous les deux.
Voilà,
avec un petit clin d'œil à notre Marie Corderoy de BFM Business qui ne peut pas être parmi nous. Voilà, obligation familiale. Marie qu'on salue puisque dorénavant Marie, elle a sa case horaire, elle a sa tranche de 10h à 10h30 tous les jours, de 10h à 10h30 sur BFM Business avec les experts de l'IMO, et elle nous réserve le vendredi, nous les collègues de la presse immobilière, on est toujours ravis d'y participer. Un immense merci à notre Isabelle Ray-Lefebvre. Voilà, je rappelle, halte sur la spéculation sur le logement, on va toujours dans les bacs, on peut toujours se le procurer, ça marche bien hein, la vente du livre.
Gentiment.
Voilà, non mais c'est pas mal, il y en a un prochain là, en cours.
Peut-être, mais non, rien de précis encore.
C'est pas un truc genre, voilà, vous devriez tous habiter à Genève dans une copropriété, dans des choses comme ça, parce qu'elle aime beaucoup la Suisse, Isabelle Relapel. Merci Isabelle, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Un immense merci à notre Bruno Monnier-Vinard, journaliste au Point. Merci Bruno. On vous retrouve, vous êtes avec nous le mois prochain. Hein.
Oui, je voulais juste te dire, faire attention aussi aux faux de Brad Pitt en rénovation. J'avais vu un artisan qui avait sur la porte arrière de sa camionnette pris les initiales bureau de rénovation. D'aménagement.
Vous l'avez.
Je vous passerai la photo la prochaine grande journée.
Je sais pas comment vous trouvez les choses. Enfin, déjà, grâce à vous, je sais circuler dans le métro, puisque vous m'avez envoyé un plan de métro très sympa. Merci, Bruno Magnier-Vinard. Un immense merci à Régis Sébille. Voilà, Monsieur Data de Bien Ici, qui est aujourd'hui le portail d'annonces immobilières majeures des Français, avec, je crois, 17 millions de visites par mois.
Bah, ça ne fait qu'augmenter, donc je ne pourrais plus vous dire.
C'est colossal. Voilà, pour travailler avec Sopinsco, justement pour évangéliser les foules et leur montrer que vous avez des entreprises qui vous donnent les clés de compréhension, de lisibilité, parce que c'est vrai que juste à ouvrir un dossier d'aide, par exemple, c'est un gros mal de tête quand même, c'est pas évident. Merci à toutes et à tous, il est exactement 19h54, on a pris un petit peu de temps, mais il fallait en prendre pour vous donner les clés de compréhension. L'émission est à retrouver en podcast, comme d'habitude, sur les plateformes d'écoute, et bien entendu sur l'application de Radio Immo. On se retrouve le mois prochain pour un second rendez-vous du grand jury de la presse immobilière. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve en février.
Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.